J'ai récemment regardé un documentaire d'archives sur les camps de concentration. Et on relatait toutes les atrocités faites par les nazis. Et en regardant ça, j'étais quelque part révolté, et je pense que vous le seriez aussi. Et je mesurais quelque part combien le cœur de l'homme était mauvais. Combien le cœur de l'homme pouvait, quelque part, être sans limite dans sa méchanceté. Et si vous regardez les informations à la télévision, les journaux télévisés, vous constaterez que on voit beaucoup de choses bien tristes, tromperies, meurtres, malhonnêteté, et ça confirme bien que le cœur de l'homme est mauvais. Alors ce cœur mauvais, ce mal, la Bible lui donne un nom, il l'appelle péché. Et c'est un mot qui est un peu... qui parle plus beaucoup à nos contemporains. Alors je vais essayer de le reformuler avec d'autres mots, des mots qu'on connaît un peu mieux. C'est déjà le caractère rebelle à Dieu. C'est le fait que je suis rebelle à Dieu. Je refuse de le reconnaître, de reconnaître son existence. Je refuse de le louer. Et c'est aussi toutes ces pensées, tous ces actes qui sont opposés à l'amour du prochain. Alors que ce soit dans mes pensées, pensées d'orgueil égocentrique, pensées d'envie, et puis des pensées qui vont se traduire en actes derrière. Vol, adultère, blessure des autres. Et ce matin, on a, avec la Sainte Cène, rappelé que ce péché mérite la mort et que cette mort, ce n'est pas nous qui l'avons subi, c'est Christ qui l'a subi à ma place. Mais ce matin, je voudrais pas qu'on regarde les péchés extrêmement violents des nazis. Je voudrais qu'on regarde pas au loin, pas aux autres. Je voudrais qu'on regarde à nous. Et quand j'ai commencé à regarder à nous, je voudrais qu'on commence à regarder par moi, en commençant par moi. Vous avez devant vous un prédicateur qui n'est pas parfait. Certains le savent bien, mais... Il essaie de se montrer sous son meilleur jour. Il essaie bien de cacher ses faiblesses, de cacher ses écarts. Par contre, il est très rapide à juger les autres. C'est même un expert pour juger les autres, pour vous juger parfois. Il est quand même très orgueilleux. Si je fais le point, cette semaine, j'ai plusieurs fois blessé mon entourage. J'ai pas fait d'actes très mauvais au sens que j'ai pas volé, j'ai pas commis adultère. Mais dans mes pensées, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans mes pensées, même si dans mes actes, je n'ai pas fait ça. J'étais cette semaine lâche dans mon témoignage. Je crois que j'ai été méprisant avec plusieurs personnes. Je vous le confesse, mon cœur est mauvais. Et si souvent opposé à Dieu. Et encore, je ne vous dis pas tout. Je ne vous fais qu'un extrait. Que faire face à ça? Je vais vous proposer d'appliquer Jean 8. Pour ceux qui connaissent bien Jean 8. On ne va pas le lire, juste... Vous vous souvenez, c'est cet épisode où les pharisiens, ils amènent devant Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère et ils proposent de la lapider avec des pierres. Elle mérite la mort pour cet adultère. Et moi, je vous propose de faire un parallèle en disant, je suis en flagrant délit de péché répété, je vous propose de me jeter des pierres. Alors, si vous n'avez pas de pierres, vous pouvez jeter vos Bibles. N'hésitez pas. Excuse-moi.
Il faut qu'ils mettent leur nom dedans avant.
Ouais, c'est ça, qu'on les récupère. Alors certains veulent pas l'acheter parce qu'ils veulent la garder. Non, mais n'hésitez pas, jetez vos Bibles. Je vois qu'Alban hésite un peu. Ou que vous voulez pas abîmer votre Bible. Peut-être que vous vous souvenez de cette parole de Jésus qui dit que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre, la première Bible. Et ce qui s'est passé lorsque Jésus a dit cela, et il faisait des dessins sur la terre, ils sont progressivement tous partis, en commençant par les plus âgés, parce qu'ils mesuraient chacun ce qu'il y avait dans leur cœur. Alors ne partez pas, même si vous avez ce sentiment. Vous noterez que Olivier n'a pas acheté sa Bible. se pourrait-il qu'il ne soit pas parfait? Notre pasteur serait-il, commettrait-il des péchés parfois? Un ou deux, des micro-péchés, il est pasteur, pas beaucoup plus que ça. Hein. Alors j'ai ici la liste des péchés commis par Olivier la semaine dernière. Je remercie Valérie pour m'avoir aidé, Kinocha. La liste est longue. J'avais envie, mais j'ai abandonné l'idée, de vous distribuer à chacun deux ou trois post-it et de noter dans le secret ce que vous avez fait cette semaine qui n'est pas la gloire de Dieu, les péchés que vous avez commis, et puis à la fin, on aurait mis sur un paperboard ici l'intégralité de ces post-it. Je crois que le tableau aurait été sombre, mais j'ai abandonné cette idée. Alors si vous entrez dans cette église pour la première fois, ou pour la deuxième fois, j'ai une triste nouvelle pour vous, c'est que vous entrez dans une église faite de gens très imparfaits. Ils ont parfois beaucoup de bonnes choses dans leur cœur, beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de difficultés à vivre sans blesser les autres, beaucoup de difficultés à ne pas penser qu'ils sont les meilleurs. Il y a à la fois le feu de l'esprit et puis beaucoup de pensées de ténèbres. Ils ont de beaux sourires de bons chrétiens. Vous êtes, je vous vois avec de beaux, voilà, des beaux visages de bons chrétiens, mais ce qui se passe dans leur cœur est parfois bien sombre. Alors si vous voulez une église d'hommes parfaits, d'hommes qui ne pêchent pas, qui n'ont pas ce cœur mauvais, alors je vous invite à sortir. Vous prenez la rue de Rochère, vous tout droit, tout droit, tout droit, là vous arrivez à une autre église. Ah mais ils ne sont pas aussi parfaits. Donc vous reprenez, vous allez... Mais celle-là non plus n'est pas parfaite. Donc si vous voulez une église parfaite, je crois qu'il faudra attendre d'être au ciel pour trouver des hommes parfaits. Mon cœur, notre cœur, et un peu comme le chant de Matthieu 13, il y pousse du bon grain, mais il y a aussi de l'ivraie. Bien des pensées d'amour, des gestes de bonté, mais aussi des pensées de ténèbres dans nos cœurs. Alors pourquoi est-ce que j'insiste autant? Peut-être un peu trop, me direz-vous. Il ne s'agit pas de banaliser le mal, banaliser le péché, banaliser le mauvais penchant de mon cœur en disant « on est tous mauvais, super, ils sont aussi mauvais que moi, donc je peux m'endormir tranquille ». Et là, si tu veux appliquer... J'ai mis « tombons les masques des bons chrétiens ». N'avez-vous jamais discuté avec quelqu'un qui vient dans une église et qui se sent jugé par ce que lui renvoient les gens d'une église? Ou même quelqu'un qui ne vient plus dans une église parce qu'il se sent jugé? Et même des enfants de Dieu qui parfois dans un domaine de leur vie, ils sont en échec. Et ils sont accablés, ils viennent le dimanche matin et ils voient les autres avec leur beau sourire, avec leur tête de petit chrétien tout saint, enfin je sais pas si vous voulez ça, de petit chrétien, voilà, et ils se disent, mais je comprends pas pourquoi eux ça marche et pourquoi moi dans ma vie, pourquoi je suis en échec, pourquoi je suis toujours dans ce péché et ça revient et je m'en sors pas, et pourquoi eux ils sont pas comme moi, pourquoi moi j'y arrive pas. Est-ce que c'est le cas de certains d'entre nous dans cette église? Est-ce que certains entendent cette petite voix dans leur tête qui leur dit que, en fait, ils n'y arriveront jamais? Et que si les autres savaient ce qu'ils font dans leur vie, on les rejetterait? Alors ce matin, ce que je veux vous dire, ce que je veux nous dire, c'est que ça, c'est pas vrai. Et que c'est pas la réalité. Derrière les masques de chacun d'entre nous, derrière nos masques, de bons petits chrétiens, il y a dans nos cœurs des choses bien sombres, et que pour celui qui est en lutte, qui se dit « je comprends pas pourquoi moi je n'y arrive pas », et bien sache qu'il n'est pas seul. Et je vais vous proposer, d'ailleurs, vas-y, tu vas cliquer deux fois, vas-y, hop, Je vous propose une lecture, en particulier pour ceux qui vivent cela. Je vous propose une lecture dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7. Romains chapitre 7, au verset 15. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Je découvre cette loi en moi, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Notez bien que ce passage n'est pas adressé à des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais à des chrétiens de l'Église de Rome. Et celui qui parle, c'est l'apôtre Paul. Et si Paul peut dire « Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée que je fais », c'est ce que je vois dans ma vie bien souvent. Alors jusque-là, le tableau est assez sombre, hein, je vous l'accorde. Mais je voudrais maintenant basculer dans une deuxième partie beaucoup plus positive parce que Dieu est là. Et tout d'abord, pour celui qui a ce cœur et qui n'arrive pas quelque part à faire le bien, celui qui est dans ses péchés, quel regard Dieu a-t-il sur cet homme ? Eh bien, Dieu a un regard de grâce, un regard qui accueille. Et on va, si tu veux, cliquer, lire un premier passage dans Matthieu 9. Et en fait, on voit que notre Seigneur, il était en compagnie de... pas de gens, d'ailleurs il le dit, on va le lire. Les pharisiens virent cela, c'est-à-dire que Jésus était avec des collecteurs d'impôts, des pécheurs, et dirent aux disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire « je désire bonté, non sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus-Christ était là pour les pécheurs et il est parlé de malades. Ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Il ne s'agit pas là, dans ce passage-là, de malades physiquement, mais surtout de malades spirituellement, de malades parce que mon cœur est mauvais. Deuxième passage, Luc 18. Et là, je vous invite à voir... Lequel de ces deux hommes qu'on va voir, lequel êtes-vous ? En tout cas, dans lequel vous vous reconnaissez ? Luc 18, au verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui est pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. Notre Dieu porte un regard de grâce sur celui qui reconnaît et qui est humilié par son péché. À l'inverse, celui qui refuse de reconnaître son péché, on va lire le passage suivant. Et c'est dans les premiers épîtres de Jean, chapitre 1, verset 8. Jésus a, on a parlé tout à l'heure de Jean 8, Jésus a un regard de grâce sur la femme adultère, prise en flagrant délit d'adultère. Il a vraiment un regard de grâce sur elle. Mais on voit dans la parole qu'il est parfois plus sévère avec ceux qui se disent sans péché ou qui cherchent à cacher leur péché. 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous. J'espère que le verset suivant, vous le connaissez par cœur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Alors si vous ne connaissez pas Dieu, si vous n'avez pas fait ce choix de lui donner votre vie, mais que vous reconnaissez votre cœur mauvais, ce que la Bible appelle pécheur, Dieu vous offre sa grâce. Dieu vous accueille. On a vu que Jésus était là pour être avec ceux qui étaient pécheurs, et il fait cette proposition qu'on a évoquée dans la scène sainte, Christ prend votre place. Si par contre vous connaissez Dieu et que vous l'appelez Père, mais que dans votre vie vous avez ce cœur rebelle, ce cœur chargé de choses qui ne sont pas à son honneur, et que vous êtes quelque part chargé par cela, alors Dieu vous accueille. Dieu ne se présente pas comme un juge, mais il se présente comme un Père qui vous accueille d'abord. Et je voudrais qu'on se pose la question. Moi, si tu veux cliquer. Si ça marche, ouais. Quel est mon regard? Est-ce que moi, j'ai le regard de Dieu sur mes frères et sœurs? Est-ce que mon regard, c'est celui du pharisien qui regarde avec mépris? Ou est-ce que je regarde mes frères, ma sœur, qui se débat avec son péché, avec son mauvais caractère, avec ses pensées impures? Est-ce que je le regarde avec de la grâce? Est-ce que je me réjouis de ses forces? Mais est-ce que je suis compatissant pour ses faiblesses? Un regard de grâce qui pardonne. J'irai même plus loin. Est-ce que mon frère, ma sœur, se sent suffisamment accueilli pour oser me partager son péché? J'aimerais qu'on en soit là. Que dans nos regards, on ait tellement de grâce que on puisse ainsi se partager, confesser ses péchés changés. Et je prie vraiment que Dieu nous donne un regard de grâce, un cœur de grâce. La première bonne nouvelle, après ce tableau assez sombre que j'ai dressé au départ, c'est que Dieu a un regard de grâce sur celui qui est pécheur. La deuxième bonne nouvelle, c'est que Dieu ne se satisfait pas de ça et ne veut pas nous laisser là. Vous vous disiez, mais quand est-ce qu'il va arriver là? Dieu ne désire pas qu'on reste et que ce cœur mauvais, ce cœur perdure. Alors si tu veux cliquer, j'ai juste cité deux versets et il y en a bien d'autres. Juste versets qui démontrent que si moi je désire que mon cœur soit différent et que mes actes soient des actes bons à la gloire de mon Dieu, encore plus que moi, Mon Dieu, mon Père, c'est son désir. C'est son désir de me transformer. C'est son désir que je sois saint. Philippiens 1, verset 6, je suis persuadé que celui, Dieu, qui a commencé en moi cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. C'est lui qui va me sanctifier. Et que tout votre être, l'esprit et l'âme et le corps soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu me dit, ce que Dieu vous dit, c'est mon désir, c'est mon projet de vous sanctifier, de vous purifier. Tu as le désir et tu te rends compte que tu ne peux pas. J'ai le désir de faire le bien, mais c'est le mal que je fais. Dieu dit, mais c'est mon projet de te sanctifier. Moi, je vais le faire. Et donc, il y a un chemin. Il y a un chemin de progrès. Et ce chemin de progrès, eh bien, je ne vais pas le traiter aujourd'hui. Parce que ça aurait été trop long. Et je le traiterai dans 3 semaines. Je suis le nouveau de message dans 3 semaines. Et dans 3 semaines, j'aurais vraiment qu'on entre dans ce chemin comment Dieu va me faire progresser. Et ce qu'on verra dans 3 semaines, c'est que Dieu non seulement a effacé mes péchés, mais qu'il a fait de moi un saint. Et je crois que tout à l'heure, je vous ai dit pas mal de bêtises. Et qu'il a fait de moi un parfait, un saint, et que ce qui me pousse à pécher dans ma vie, c'est pas moi. C'est quelque chose qui est en moi, mais c'est pas moi, et qu'il y a en mon cœur quelque chose qui me pousse, une vieille nature qui pousse à faire ce que je veux pas. On verra que cette vieille nature, Dieu l'a vaincue. On verra que nos pensées sont vraiment l'enjeu principal, et que bien avant les actes, l'enjeu principal, c'est qu'est-ce qui se passe dans mes pensées. On verra que c'est Dieu qui agit et que j'ai aussi ma part à faire, et on regardera ça. Alors, vous êtes très impatients, il faudra attendre 3 semaines. Et je vous propose juste un verset quand même, vous le connaissez, je l'ai déjà lu, je vais le relire. Parce que pour moi, c'est vraiment un verset clé. 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si tu veux cliquer, Dieu désire, et on verra que c'est Dieu qui fait ma sanctification, c'est Dieu qui change mon cœur. Et il veut le faire de manière individuelle, mais le faire aussi de manière collective. Il est dit dans l'Épître aux Éphésiens que Christ a aimé l'Église, s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et je voudrais vous lire un petit extrait d'un livre, je vous montrerai après le livre, ne vous inquiétez pas. L'extrait d'un livre où on parle de réveil. Et beaucoup souhaitent que l'Église se réveille. Et je vais vous lire. On est souvent enclin à considérer que le réveil comme une chose spectaculaire, caractérisée par un mouvement de masse impressionnant, des foules d'inconvertis convaincus de péché, et celle au milieu d'une plus ou moins grande excitation. Mais plusieurs ont fait avec nous l'expérience que le réveil est souvent chose bien différente. Non, le réveil n'est pas spectaculaire, en tout cas pas pour qui est convaincu de péché devant la croix. Le réveil ne concerne pas d'abord les inconvertis, mais le peuple de Dieu lui-même. Ce sont les chrétiens qui doivent être réveillés, car il y a chez eux un recul, une diminution de vie spirituelle. Ils se sont endormis. Aussi, les candidats au réveil sont ceux qui veulent bien confesser ce recul, cette diminution de vie, et Dieu pourra réveiller dans la mesure où les péchés seront confessés d'une manière claire et précise. Lorsque de telles choses se passeront parmi les chrétiens, Dieu pourra alors travailler parmi les perdus avec une force nouvelle, et son œuvre de grâce sera visible pour tous. C'est un extrait d'un livre que beaucoup ont lu certainement, Le chemin du calvaire de Roy Essien, grand prédicateur du XXe siècle. Dimanche dernier, on a parlé de vision d'Église. Et je prie que pendant ce temps de réflexion d'Église qui nous porte devant, je prie qu'en même temps, Dieu fasse un travail dans nos cœurs, dans chacun de nos cœurs, un travail de sainteté. Et qu'il y ait en même temps qu'une vision, vraiment une vision glorieuse pour l'Église de notre Dieu, il y ait un temps de confession, un temps de désir de sainteté. Alors l'œuvre de Dieu avancera grandement. En conclusion, je ne vous ai pas donné le titre de mon message. J'ai raté ça. Le titre de mon message, c'était Bas les masques. Bas les masques, le monstre est dans mon cœur. Bas les masques parce que voilà. Qu'on ose tomber le masque de bon chrétien et qu'on reconnaisse qu'il y ait ce péché en moi. Comprendre que pour celui qui est accablé par son péché, qui se dit « mais moi j'arrive pas à sortir, j'arrive pas, ça fait des semaines que je tombe dans le même péché, je m'en sors pas, et les autres sont pas comme moi, si les autres sont comme toi. Tu n'es pas seul sur ce chemin. » Que Dieu nous offre son regard de grâce les uns envers les autres, et que bien plus que moi-même, celui qui veut me changer, me libérer, c'est Dieu lui-même qui veut me libérer, qui veut me faire progresser, qui veut me libérer de ces échecs parfois répétés. Et c'est ce qu'on regardera la prochaine fois, ce chemin de progrès. Et je vais terminer en priant. Seigneur Jésus, j'ai la paix parce que tu es mon Père, parce que mes péchés ont été pardonnés. Mais une de mes grandes déceptions lorsque je suis devenu chrétien, c'est de découvrir que même si mes péchés étaient pardonnés, j'avais encore en mon cœur ce cœur mauvais, ce cœur loin de toi qui faisait que je continue à pécher, bien que je sois sauvé. Père, je te dis mon désir d'un cœur pur pour toi. Je te loue parce que tu le veux encore plus que moi. Je connais ton regard de grâce sur moi. Je te prie, Père, que tu nous donnes à chacun un regard de grâce, ton regard de grâce. Sur mon frère, ma sœur qui parfois sans échec dans sa vie. Transforme nos cœurs pour qu'on ait ce regard-là. Et je désire, nous désirons que tu transformes nos cœurs, que tu transformes nos échecs en chemin de victoire. Et on sait que c'est ton désir que tu veux le faire et que tu vas le faire pour nous. Amen.